Dans la deuxième partie de la grande table, l'actualité des idées aujourd'hui, avec comme redouté le transfert lundi de l'ambassade américaine valant reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, qui a provoqué une poussée de violence. Le défilé de dizaines de milliers de Palestiniens à Gaza, à la frontière, a été durablement réprimé par l'armée israélienne, tuant 60 manifestants et en blessant plus de 1400 autres. Bien sûr, par balle. Le réveil du conflit israélo-palestinien avec le journaliste franco-israélien Charles Anderlin, correspondant emblématique de France 2 à Jérusalem, une région, le Proche-Orient, qu'il a couvert pendant 35 ans, lauréat en février dernier du prix Christophe de Pontfilly, auteur de plusieurs ouvrages, dont Les années perdues, Intifada et guerre au Proche-Orient chez Fayard, c'était en 2006, Le grand aveuglement, Israël et l'ascension irrésistible de l'islam radical, c'était chez Albin Michel en 2009, ou encore Au nom du Temple, Israël et l'irrésistible ascension du messianisme juif, un ouvrage paru au Seuil en 2013. Il a aussi réalisé de nombreux documentaires et il est actuellement à Paris pour une série de conférences Pensée globale en lien avec son parcours de journaliste. Bonjour Charles Anderlin.
Bonjour.
Une question tout d'abord sur le traitement médiatique. J'ai dit réveil du conflit israélo-palestinien, on aurait pu dire secousse. On cherche toujours ces mots quand on parle de ce conflit qui dure depuis des décennies, que vous avez couvert pendant plus de 30 ans. Globalement, est-ce que vous diriez que c'est un conflit moins visible déjà dans les médias ?
C'est une décision des rédactions et des médias. Il n'y a pas de... Enfin, vu de Jérusalem où j'habite, je constate qu'à l'exception d'un peu la presse écrite, la grande presse écrite française ou américaine, on ne suit pas semaine par semaine ce qui se passe dans ce conflit, alors qu'il y a quand même des choses très importantes que l'on ne retrouve pas dans les journaux télévisés et parfois même dans les journaux des radios. Il n'y a pas de suivi, c'est dommage parce qu'encore une fois tout le monde est surpris, tiens il se passe quelque chose, alors on a une grande bouffée de couverture, les envoyés spéciaux arrivent par vagues, refont des sujets, diffusent, et puis pouf, ça s'est un peu calmé, on s'en va, et puis on va couvrir autre chose, et entre-temps, dans quelques semaines, quelques mois ou plus, tout à coup, tiens, de nouveau, on reparle du conflit, d'après moi, il y a un véritable manque d'informations destinées au public.
C'est un peu vrai pour tout quand même, ça, ce que vous dites.
Oui, aujourd'hui. En tout cas, moi, mon épicerie, c'est là-bas.
Ce qui veut dire que pour vous, se joue beaucoup de choses aussi en creux, dans ces périodes un peu de latence de l'information, et non pas dans ces pics de violence qu'on a pu encore constater lundi, et qui a effectivement réamené les médias, télévision, radio, presse écrite, à s'intéresser à la situation au Proche-Orient. Qu'est-ce qu'on ne dit pas ? Qu'on entend peu, et qu'est-ce qui devrait attirer notre attention ?
Les grandes transformations des sociétés de la région. Par exemple, j'ai couvert les deux révolutions en Égypte, contre Moubarak puis contre Morsi. Entre les deux, il y a eu très peu de reportages sur les chaînes. Ça n'intéressait pas, ça n'intéressait plus. C'est exactement la même chose. La société israélienne, par exemple, aujourd'hui, s'est complètement transformée. Ce n'est pas l'Israël d'il y a 5-10 ans. Parfois, il m'arrive de parler à des patrons de presse, des rédacteurs en chef, on a l'impression qu'ils sont encore dans l'image d'Israël d'il y a 20-30 ans, du kibbutz et puis du kibbutznik qui cultive sa terre sous le Golan. Tout ça, c'est fini. La société israélienne aujourd'hui est totalement différente par rapport à ce qu'elle a été pendant 10 ans au pouvoir pratiquement. Benjamin Netanyahou a transformé la société israélienne.
Dans quel sens ?
Elle est plus à droite, la gauche est laminée, c'est à la fois une politique gouvernementale qu'une initiative de la droite, des ONG de droite. Lorsque par exemple un ministre allemand ou hollandais arrive à Jérusalem et avant d'aller voir Benjamin Netanyahou, il décide d'aller rencontrer une ONG de gauche israélienne, dûment enregistré, parfaitement légal en Israël, Breaking the Silence, les soldats, les vétérans qui critiquent les opérations de l'armée, ou B'Tselem qui défend les droits de l'homme dans les territoires occupés, eh bien si ce ministre rencontre la gauche, cette gauche israélienne-là, Benjamin Netanyahou refuse de le rencontrer, ça c'est un exemple. Et puis dans l'ensemble de la société, il faut comprendre que pour l'Israélien moyen, le juif israélien, ce qui s'est passé n'avait absolument aucune importance. Les Israéliens, la semaine dernière, ont fêté la victoire de Netta Barzilai à l'Eurovision de la chanson. Et puis pour le reste, ils ont suivi vaguement de loin la cérémonie à la future ambassade des États-Unis. Et puis voilà.
Et ça, comment vous l'expliquez, Charles Anderlin, ce décalage entre l'horreur ressentie ici par les 60 morts de Gaza et la relative, voire totale indifférence israélienne? 500 manifestants pour la paix, il y a quelques jours, avant-hier, je crois, à Tel Aviv.
C'est pas mal.
Il y en avait 200 000 contre la guerre il y a 20 ans au même endroit.
Eh bien, écoutez, c'est tout simple. 71% des, dans un sondage, des juifs israéliens justifient l'usage des tirs à balles réelles à Gaza. Point. Ça, c'est un sondage de l'Institut israélien pour la démocratie. Il faut dire que tout ça se passe alors que tous les indicateurs israéliens sont bons. 3,3% d'augmentation du PIB. On rêverait de cela dans certains pays européens. Le chômage en dessous de 5%. Il y a un problème de pauvreté. Israël est au bas de l'échelle pour les pays de l'OCDE dans la pauvreté. C'est un problème. Mais dans l'ensemble, pour l'Israélien moyen, tout va bien. Oui, alors il y a les critiques occidentales, mais la société israélienne juive est bien tenue par la communication israélienne. On nous a expliqué que tous les morts Palestine à Gaza, c'était des terroristes du Hamas. Eh bien, le public y croit.
Donc, c'est ce que dit quand même sur ce point précis. Il y a un responsable du Hamas qui dit qu'il y a une majorité, malgré tout, de gens qui ont été tués, qui venaient du Hamas.
Ça a été repris par les Israéliens. Hamas se présente côté palestinien comme le victorieux. C'est-à-dire, ils ont annexé les morts qui, très probablement, dans leur grande majorité, n'appartenaient pas au Hamas. On n'a d'ailleurs pas vu beaucoup de drapeaux du Hamas lors de ces manifestations sur la frontière. Donc vous avez à la fois cette communication Hamas, vous avez une communication de Mahmoud Abbas à Ramallah qui est anti-Hamas, l'accuse d'envoyer les jeunes au massacre face aux Israéliens, et puis la communication israélienne, on ne peut pas les laisser pénétrer en territoire israélien, ils vont faire un massacre dans les kibboutzim de la région, et puis tout cela passe. La communication israélienne est totalement incompréhensible pour vous en Europe, à Paris ou ailleurs, mais en Israël, pour les juifs israéliens, ça passe complètement. C'est d'ailleurs la même chose, à mon avis, pour une grande partie des communautés juives de diaspora, où on croit absolument ce que l'armée israélienne raconte.
Alors ça, c'est la voie de la communication, comme vous venez de l'évoquer, Charles Anderlin. Que nous dirait la voie de l'information? Qu'est-ce qui se passe en ce moment, ou qu'est-ce qui s'est réellement passé lundi?
Plus du même. Gaza, ce sont 2 millions d'êtres humains qui ont quelques heures d'électricité par jour, pas d'eau potable au robinet, un chômage totalement endémique. Les maisons qui ont été détruites lors de la dernière guerre, pour la plupart, n'ont pas été reconstruites parce que les gens qui ont reçu des dons de béton, de ciment et de les ont vendus parce qu'ils n'ont pas d'argent. De Gaza, aucune exportation ou presque ne sort, un tout petit peu d'agriculture, l'argent ne rentre pas. Et puis le soir, la nuit tombe, noir sur Gaza, et de l'autre côté, à quelques kilomètres, les Gazaouis voient 24 heures sur 24 les lumières briller dans les localités israéliennes autour de la frontière, et puis le matin, on voit les tourniquets d'eau arroser les pelouses autour. Et il est évident que ça allait exploser, ça fait d'ailleurs des mois et des mois qu'on en parle. L'armée israélienne, les chefs de l'armée n'ont cessé de répéter au gouvernement Gaza, une crise humanitaire majeure, on va en payer le prix, ça va exploser. Netanyahou a fait faire un autre rapport par le Shin Bet, le service de renseignement intérieur, qui a dit il n'y a pas de risque de crise humanitaire tragique dans un avenir proche. Eh bien, c'est ce qu'a préféré entendre Netanyahou. Et lorsqu'on a appris qu'il y avait ces manifestations en préparation, eh bien, on a envoyé l'armée avec l'ordre de tirer. Point, c'est tout simple. Maintenant, les militaires disaient, il faut calmer les choses, donner de l'électricité à Gaza, donner de l'eau. Il y a même un ancien général, plutôt à droite, qui a expliqué que moi, j'étais responsable de cette région-là. J'autorisais 30 000 Gazaouis à aller travailler en Israël, ça amenait de l'argent dans Gaza. Cela, en plus, un processus de paix mort, l'inauguration, la pseudo-inauguration de cette ambassade des États-Unis à Jérusalem, ben c'est un des derniers clous dans le cercueil du processus de paix, du processus d'Oslo, qui ne peut pas marcher. C'est fini, il n'y aura pas d'État palestinien aux côtés d'Israël. C'est tout simplement impossible, d'abord en raison de la situation sur le terrain et puis aussi de l'esprit qui règne en Israël.
On va revenir à l'avenir éventuellement de ce processus. Vous n'avez pas l'air de croire qu'il en ait beaucoup, mais quand même. Vous pointez en attendant, dans le monde diplomatique de janvier, l'erreur fondamentale du président américain Donald Trump. Quel rôle a eu Washington dans la dégradation de la situation actuellement?
Ben, tout simple. D'abord, ça a commencé avec des oukases de l'administration Trump à l'autorité palestinienne, et puis ensuite l'annonce de la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël, avec une petite phrase, oui, mais ce sera les lignes définitives seront négociées. Ça, c'est une plaisanterie, parce que le matin même de l'ouverture des bureaux de l'ambassadeur des États-Unis à Jérusalem, le gouvernement israélien a décidé d'octroyer 2 milliards de shekels pour israéliser Jérusalem-Est. Jérusalem-Est, la ville palestinienne. Israéliser, ça veut dire judaïser, c'est ce dont les Palestiniens accusent constamment le gouvernement israélien.
Vous nous rappelez aussi que c'est quand même le réveil d'une décision endormie depuis 1995, qu'en parallèle de cette décision américaine de transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, il y a aussi des pressions qui sont mises sur les réfugiés palestiniens hors Cisjordanie et hors Gaza, en coupant des subventions américaines à l'agence qui aide les Palestiniens réfugiés ailleurs au Proche-Orient, qui les aide en termes d'éducation, de santé, d'alimentation, tout ça continuant à créer un terreau extrêmement favorable aussi à une montée des violences. Face à cela, que dit la communauté internationale? Comment expliquer que, même isolé, Washington donne le la sur cette question aujourd'hui?
Bien, écoutez, tout simplement, la communauté internationale, l'Europe, la France, continuent de répéter comme des perroquets. Il faut œuvrer pour la solution à deux États. En fait, ce que la communauté internationale veut, c'est maintenir le statu quo. Maintenir le statu quo, ça veut dire maintenir l'autorité autonome palestinienne à Ramallah, la financer, c'est ce qui a resté là-bas une partie de vos impôts d'ailleurs. C'est l'occupation la plus favorable à Israël. Israël ne dépense pas un shekel pour l'administration des Palestiniens. C'est l'autorité palestinienne, ce sont les grandes villes autonomes. À côté de cela, vous avez 60% de la Cisjordanie qui est annexée de fait par Israël, où se trouvent les colonies, 400 000 Israéliens.
En Cisjordanie.
Donc, lorsque le président Macron répète la solution à deux États, je vois pas très bien où on peut faire le deuxième État. Dans l'état actuel des choses, d'autant plus que pour les Palestiniens, et à propos d'ailleurs, pour rappeler le terme de droit du retour des réfugiés, au cours d'aucune négociation, l'OLP, les dirigeants palestiniens, les négociateurs ont demandé le droit au retour pour les Palestiniens. Il n'a toujours été question que de réunification de familles dans des nombres très limités, quelques milliers peut-être au maximum, 30 000. C'est tout, donc retour des réfugiés. Non, dans les négociations, il a été question d'accorder des dédommagements financiers aux réfugiés et à leurs descendants à l'étranger. Mais à part cela, ce que voulait Yasser Arafat, c'était pouvoir proclamer l'indépendance de la Palestine depuis Al-Aqsa. Et l'impossibilité d'aboutir à un accord sur Al-Aqsa, qui est le troisième lieu saint de l'islam, mais aussi le mont du Temple, le seul lieu saint du judaïsme, eh bien tout cela, depuis Camp David, en juillet 2000, bloque toutes les négociations. Il n'y a absolument rien eu depuis, si ce n'est avec une force d'inertie, le maintien du statu quo, parce qu'une nouvelle crise israélo-palestinienne serait une catastrophe pour la région, et personne n'en veut. Vous avez vu ce qui est arrivé, le calme revient à la frontière entre Gaza et Israël. Eh bien, tout simplement, tout le monde a téléphoné. Les Égyptiens ont fait savoir au Hamas, vous arrêtez. Les Jordaniens ont fait savoir aussi, peuvent très bien bloquer tous les passages de personnalités palestiniennes de Gaza et d'ailleurs en Jordanie, et qui est une des sorties des Palestiniens vers le monde extérieur, tout simplement, Monsieur Sisi, le général Sisi en Égypte, a besoin de la coopération sécuritaire d'Israël dans la lutte contre Daesh dans le Sinaï. Il en est absolument la même chose avec le roi Abdallah de Jordanie, qui vaille que vaille, bon, il a condamné les tirs, le bain de sang, par l'armée israélienne à la frontière de Gaza, mais pas d'appel d'ambassadeur.
Et la Syrie a un peu d'autres préoccupations en ce moment, sachant aussi qu'il y a un réveil des tensions entre la Syrie et Israël, ou disons entre l'Iran et Israël, qui se joue par Syrie interposée, pays en guerre civile s'il en est, le Liban, qui reste une voie éteinte dans la région, en tout cas sur ce sujet. Donc on sent que c'est pour les pays alentour. Au-delà de ça, vous dites pas plus de voix qui se font entendre, et à l'intérieur des territoires palestiniens, parce que on a l'impression qu'il n'y a pas non plus de stratégie du côté de l'autorité palestinienne. Est-ce qu'elle apaise ou est-ce qu'elle envenime cette division du Fatah et du Hamas? Ça apporte un blocage total.
Elle a toujours existé. Il y a une véritable haine qui existe depuis les années 70 entre le Fatah et ce qui est l'islam radical à Gaza, qui est devenu le Hamas par la suite. Et ça ne changera pas. Mahmoud Abbas, le président palestinien, est prêt à prendre des responsabilités sur l'administration à Gaza, mais à condition que le Hamas désarme, ce qu'il ne fera pas. Mais à propos de la Syrie et des bombardements israéliens en Syrie, c'est un grand succès, encore une fois, de la communication israélienne. Tout ce qui se passe, et les correspondants militaires, les experts israéliens le disent, tout ce que font les Iraniens en Syrie est totalement transparent pour les services israéliens. Et à partir du moment où un vieux lanceur de Katyusha de missiles Grad a tiré une vingtaine de missiles en direction du Golan occupé par Israël, 16 sont tombés en territoire syrien, 4 ont été interceptés, l'armée israélienne a tout de suite réalisé l'opération qu'elle préparait depuis plus de 15 jours et qui avait été autorisée par le cabinet israélien, c'est démolir une cinquantaine de positions iraniennes en Syrie.
Donc qu'est-ce que vous dites en disant ça?
Écoutez, d'abord, l'armée israélienne aujourd'hui, au niveau de la région, les renseignements ont la main haute sur tout ce qui se passe d'une manière assez extraordinaire. Un éditorialiste israélien a écrit une petite phrase que j'adore citer ces jours-ci. C'est aujourd'hui en Israël, Netanyahou est Dieu, Netanyahou est le roi, Trump est Dieu et la testostérone coule à flot.
Netanyahou est le roi, Trump est Dieu et la testostérone coule à flot. Bon. Et donc, pas de guerre pour vous, israélo-iranienne, à craindre?
Attention, les Iraniens font aussi extrêmement attention. Ils n'ont pas tiré de missiles en direction du territoire israélien proprement dit, seulement sur le Golan. Et ils ont fait très attention, ils ont tapé à côté des bases militaires israéliennes où il ne s'est rien passé. Si jamais un missile iranien tombait sur le territoire israélien, on pourrait être dans un scénario totalement différent.
Et le Hezbollah, puisque pour finir sur cette menace iranienne, est-ce que ce n'est pas le principal danger, peut-être que les Israéliens maîtrisent moins bien avec le nombre de missiles qu'il y a là-bas?
Si ça dérape, effectivement, cela risque de nous créer une véritable guerre régionale avec un grand nombre de victimes et des destructions, y compris en Israël. Maintenant, la dernière fois qu'il y a eu cette guerre, c'est la deuxième guerre israélienne au Liban, des quartiers entiers de Beyrouth ont été détruits et les militaires israéliens ont fait savoir si ça recommence, c'est ce qui arrivera en plus grand. Donc le Hezbollah aussi n'a aucune envie de se lancer dans une aventure militaire. Cela dit, il peut y avoir des dérapages, des calculs, des analyses stratégiques, tactiques fausses, où quelqu'un ne comprend pas ce que l'autre prépare, et puis ça peut dégénérer très vite.
Est-ce que vous n'êtes pas finalement là en train, Charles Anderlin, de justifier, d'une part, la politique du gouvernement israélien qui consiste à dire on frappe fort, on se défend, et finalement ça fonctionne, ça marche, et d'autre part, de justifier aussi le fait que les personnes, les Israéliens, se trouvent finalement en sécurité dans ce système-là? Et est-ce que tout ce que vous dites là n'est pas, finalement, va pas dans ce sens-là?
Je ne justifie rien du tout, je constate une réalité. Il est évident que pour l'avenir d'Israël et même du sionisme, Il faut un État palestinien aux côtés d'Israël, avec Jérusalem-Est pour capitale. Sans cela, je suis moi-même franco-israélien, et si la région évolue vers une forme d'État binational, où tôt ou tard la population palestinienne subira une forme de racisme, voire même une forme d'apartheid, ce n'est pas tout à fait l'Israël auquel je rêve et auquel je voudrais que, dans lequel je voudrais que mes enfants et mes petits-enfants vivent.
Charles Anderlin est notre invité jusqu'à 13h30, journaliste, correspondant pendant 35 ans de France Télévisions à Jérusalem et globalement dans la région, au Proche-Orient. Vous êtes donc avec nous, il est 13h16 sur France Culture.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Et pour repartir du début de notre discussion, on évoquait ensemble le traitement médiatique difficile de cette question. Vous en avez par ailleurs parfois fait les frais, Charles Anderlin. Absence d'objectivité, entend-on souvent quand on parle de cette question de neutralité des médias partisans. Hier, mercredi, deux manifestations séparées avaient lieu à Paris. L'une à l'appel du collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. C'était place de la République, l'autre place du Trocadéro où près de 1000 personnes étaient rassemblées. Émile Boutelier et Clémence Marie s'y sont rendues.
Nous décrétons l'année 2018, le temps de la Palestine en France.
Je pense que si le traitement des médias était pas aussi volontairement, parce que je vois pas comment ça pourrait ne pas être volontaire, mais était pas aussi volontairement partial sur ce sujet, je serais peut-être même pas là.
Boycott Israël ! Boycott Israël ! Boycott Israël ! Boycott !
Je viens des États-Unis, j'ai honte des États-Unis à ce moment, et je dois dire que Trump a fait l'injustice. Le média américain à ce moment, c'est pas très professionnel. La plupart ne comprend pas du tout et ne fait pas attention. C'est ça. On dit, ah oui, Israël, Jérusalem, pourquoi pas, comme ça, sans penser. J'ai visité Israël, Palestine, une fois, il y a 5-7 ans. Et j'ai vu que c'est pas juste. J'ai vu des murs contre les Palestiniens pour travailler en Israël.
Vive la résistance palestinienne jusqu'à la libération!
Je m'appelle Atim. Je suis ici solidaire. Solidaire avec ces êtres humains qui sont encerclés, qui sont mis sous une prison ouverte et qui vivent l'une des grandes atrocités de notre ère moderne. La France est une puissance mondiale. La France, elle avait pendant longtemps des positions très honorables. Et il faut qu'elle renoue de nouveau avec ses positions humanistes, ses positions indépendantes de ce que fait parfois les États-Unis. J'estime que c'est une occasion en or pour que la France se démarque de nouveau et reprend ce flambeau des valeurs humanistes, des valeurs d'équité, selon les principes du droit international, selon les résolutions des Nations Unies, et faire que Israël accepte ces résolutions.
Palestine résistante !
Palestine résistante ! Palestine résistante !
La situation des universités palestiniennes a beaucoup évolué. Beaucoup d'étudiants, beaucoup de filles qui étudient. Mais par contre, au niveau des conditions pour les étudiants et pour les enseignants, les choses n'ont pas tellement évolué. C'est-à-dire que vous avez toujours des entraves à la libre circulation. Vous avez des descentes de l'armée israélienne sur les campus avec des dégâts qui sont fréquents. Et puis, je suis ici ce soir parce que, avec mon épouse, on a pu aller à Gaza. Donc, on sait ce que c'est que la vie à Gaza. Et l'un de mes collègues, qui est astrophysicien, a perdu l'un de ses fils grâce à l'armée israélienne. Voilà. Il y a beaucoup plus de sympathisants de la question palestinienne actuellement. En France, où au départ les gens étaient assez sensibles à un petit pays qui, comme on le disait à l'époque, se défendait contre je ne sais pas combien de millions d'Arabes. Cette image-là, c'est terminé. Mais avec le temps, et surtout avec l'apport de connaissances sur l'histoire, sur ce qu'est profondément le mouvement sioniste, là, ma position, elle s'est radicalisée.
Un témoignage glané hier à Paris, place du Trocadéro, par Clémence Marie. Charles Anderlin, Ronny Broman nous disait hier encore sur cette antenne, invité des matins de Guillaume Herner, qu'il était marqué par le retournement d'image d'Israël aussi dans l'opinion. Israël qui, dans les années 70, bénéficiait de l'image d'un pays de rescapés, de survivants qui avait défriché le désert. Est-ce que vous vous inquiétez aussi de cette dégradation dans l'opinion de l'image d'Israël en France et un peu ailleurs dans le monde aussi?
Oui, effectivement. Encore une fois, la communication israélienne ne fonctionne pas sur l'opinion, ce qu'on appelle l'opinion internationale, mais elle fonctionne en partie dans les organisations juives à l'étranger et pour le public israélien. Mais vous savez, cela ne touche absolument pas encore les Israéliens. Depuis l'ouverture du ciel israélien aux compagnies low cost, des centaines de milliers, des millions d'Israéliens voyagent dans le monde. Schengen leur est ouvert, ils se promènent partout et ils ne ressentent absolument pas cette hostilité de la communauté internationale envers ce qui se passe, d'autant plus qu'il n'y a aucune sanction, aucune. Depuis des décennies, à chaque annonce de nouvelles constructions de cols dans les colonies en Cisjordanie, tout ce que l'on a, c'est des communiqués copiés-collés des différents ministères des Affaires étrangères européens et notamment français. Cela ne va jamais plus loin. Les accords entre Israël et l'Europe, notamment dans le domaine de la recherche scientifique, sont les plus importants pour un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Les relations extérieures internationales d'Israël sont excellentes. Et les opérations de BDS, l'organisation de boycott d'Israël, sont infimes, ça touche très peu. Il y a eu des tentatives de BDS pour empêcher la chanteuse Netta Barzilai de gagner l'Eurovision, ça a totalement raté. Israël roule, le gouvernement de droite israélien, qui est un des plus à droite de son histoire, marche sur du velours, il n'y a absolument rien.
Parce qu'il développe aussi des relations bilatérales avec d'autres pays, d'autres grands pays, partout dans le monde. L'Europe n'est pas le centre non plus de forcément
en Europe,
de sa visée.
Israël, monsieur Netanyahou rencontre régulièrement les grands dirigeants d'Europe de l'Est, polonais, hongrois, etc., avec qui il a même des relations de très proche amitié, au point d'accepter la campagne antisémite en Hongrie contre Soros, qui a été pratiquement validé par le gouvernement israélien.
Pourquoi vous dites ça ? Validé de quelle façon ?
Monsieur Netanyahou ne l'a pas condamné formellement et a laissé faire.
Charles Anderlin, on recevait aussi ici récemment William Carell pour sa série de documentaires sur l'histoire d'Israël. Et il a donné la parole à une dizaine d'écrivains israéliens, de Amos Oz à David Grossman. Tous ont quand même affiché un pessimisme sur l'avenir et le règlement de ce conflit. Comment, d'après vous, les Israéliens vont réagir au dilemme qui se pose aujourd'hui, puisque vous ne semblez plus croire, et vous n'êtes pas le seul, à une solution à deux États qui semble totalement illusoire aujourd'hui? Comment ils peuvent réagir au dilemme posé par l'absence de règlement avec les Palestiniens sur cette question d'un seul État avec les mêmes droits pour tous ou d'un État avec des droits ou des statuts différents pour les Juifs israéliens et les Arabes israéliens?
Selon les sondages, une majorité d'Israéliens juifs sont effectivement pour des discriminations envers les Arabes israéliens. Ça existe, c'est là. Aujourd'hui, il y a une discrimination dans certains domaines économiques, le chômage, mais dans l'ensemble, il y a quand même des députés israéliens à la Knesset, le Parlement. Maintenant, pour l'avenir, vous savez, le public israélien ne voit pas très, très loin dans l'avenir. On leur a mis dans la tête que pour l'instant, c'est Mahmoud Abbas qui refuse de négocier avec le Hamas. C'est pas possible, le Hamas veut détruire Israël. Et entre parenthèses, la semaine dernière, le Hamas a fait une proposition de trêve de longue durée au gouvernement israélien qui n'y a même pas réagi. L'avenir, personne, les Israéliens n'y croient pas vraiment. Les choses se passeront bien parce que ça a bien marché jusqu'à maintenant. Et il faut dire que Netanyahou, de ce point de vue, dans sa gestion du public et de la société israélienne, a réussi. Il a gagné. La droite israélienne, aujourd'hui, est victorieuse. Économiquement, ça marche. Les relations internationales d'Israël vont très bien. Il y a des visiteurs internationaux tout le temps. Netanyahou se rend fait des visites officielles partout, y compris en Afrique, à des pays qui, dans le temps, étaient plutôt hostiles à Israël. Il a réussi jusqu'à maintenant. Est-ce que les choses vont changer ? Il faut l'espérer.
Vous avez mené un long travail d'enquête sur le messianisme religieux, Charles Anderlin, qui a poussé des ultra-orthodoxes à la conquête aussi de la Cisjordanie en direction du mont où se dressent les temples de Salomon et d'Hérode. Quelle convergence vous voyez entre ces idées-là, ces croyances-là, avec les nationalistes aujourd'hui en Israël ?
C'est une alliance. Quand Ariel Sharon, en 79, avec Menachem Begin, a commencé la grande opération de construction de colonies, il a pris pour aller travailler, construire, habiter dans ces colonies, ceux pour qui la Cisjordanie, c'est la Judée-Samarie, c'est la terre qui a été donnée par Dieu au peuple juif, et les Palestiniens qui sont là sont en fait des voleurs de la terre. C'est la vision d'une partie de ce sionisme religieux, c'est une alliance, ils sont au gouvernement. Ils ont gagné. L'un des leurs a assassiné Yitzhak Rabin en novembre 1995. Et depuis, le processus que Rabin et Shimon Peres ont entamé n'est qu'une lente descente en enfer. Mais le sionisme religieux, le messianisme et le nationalisme de Netanyahou, c'est une alliance très ferme et qui se poursuit.
Antoine, merci. Une dernière question.
Et peut-être la reconnaissance de Jérusalem comme capitale, ça fait partie aussi d'une façon de conforter ce projet, cette idée qu'il y a une reconnaissance qui commence à venir internationalement.
Absolument. Maintenant, ce qui compte à Jérusalem, ce sont les lieux saints. C'est Al-Aqsa, le mont du Temple. Et c'est là que va se jouer peut-être l'avenir de la région. S'il y a des événements graves, s'il y a encore un attentat juif, ou voir ce qui est aussi arrivé à un attentat palestinien, cela peut faire déraper toute la région. C'est arrivé à deux reprises dans le passé. C'est l'endroit aussi où se trouve le point de rencontre entre le judaïsme et l'islam. Et ça, cela risque de nous mener à des guerres de religion.
Vous repartez en Israël après ou vous restez en France maintenant ?
Je repars la semaine prochaine, j'ai encore une conférence la semaine prochaine.
Voilà, ce cycle de conférences qu'on a évoqué, Pensée globale avec vous Charles Anderlin. Merci beaucoup d'être venu autour de cette grande table et merci à Antoine Mercier qui m'a accompagné. Grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Claire Maillot et Clémence Marie pour la programmation, à Maxime Morin et à Coppelia Ménardi pour la préparation, à Émile Boutelier et à Liana Valken qui nous ont également aidés. Une émission réalisée par Perret Legras à retrouver dans son entièreté sur franceculture.fr, sur les réseaux et en podcast. Merci à tous, très bel après-midi.